Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, nous allons parler musique. On va recevoir le compositeur Simon Martin pour le 10e anniversaire de Projection Libérante et de la création Musique d'Art 2022. Et notre chroniqueuse aujourd'hui, elle est ici avec moi, c'est Anne-Marie Meunier. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Arlette, ça va ?
Oui, alors toi tu viens nous faire une chronique, tu vas nous parler de jardinage et tu vas nous expliquer ce qu'est la culture bio.
Exactement.
Ah, mais pour l'instant, on va partir en musique, donc on entend un morceau de cuivre et on se retrouve avec Simon Martin tout de suite après ça. Voilà, donc nous sommes avec Simon Martin. Bonjour Simon.
Bonjour.
Bonjour. Alors, nous sommes avec notre chroniqueuse Anne-Marie Meunier. On est toutes les deux en studio. Et on va donc discuter de ce 10e anniversaire. On va dire d'abord que vous êtes compositeur, producteur de musique de concert contemporaine, directeur fondateur des Projections Libérantes, dont c'est le 10e anniversaire, et dont la nouvelle création va se jouer au Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville. Le dimanche 22 mai à 13h, dans une église. Alors j'espère que je vais dire le nom comme il faut, Saint-Christophe d'Arthabasca, c'est ça ?
C'est ça, exact.
Je suis trop bonne. Qu'est-ce que c'est, Simon, comment on l'explique, la musique actuelle ?
Ouh, ouais.
Je sais que c'est gros, mais c'est parce que on a regardé ensemble avec Anne-Marie sur la compagnie, puis sur écouter les musiques et vu plein de choses et même regardé la construction des nouvelles guitares, mais on en parlera un petit peu après.
Ok, ouais. Ce chapeau-là, musique actuelle, c'est une musique, on pourrait dire, d'exploration. Dans le contexte du festival de Victoriaville, c'est très varié. Donc, en fait, moi, la musique que je fais, on va la classer souvent comme étant musique contemporaine. Donc, c'est plus associé à la musique de concert, donc avec les instruments classiques sur scène, mais une musique composée, écrite, comme on le fait déjà depuis quelques siècles. Tandis que la musique actuelle, c'est intéressant, c'est très ouvert parce qu'il m'invite moi aussi, mais ça rejoint aussi, par exemple, des formes de jazz improvisées. Donc, évidemment, le jazz, c'est improvisé, mais des toutes sortes de musiques improvisées, surtout, en fait, où on va explorer le son de toutes sortes de façons. Donc, c'est assez éclectique. Il y a aussi des installations sonore au festival, donc maintenant depuis quelques années, à chaque année. Donc c'est vraiment une exploration du son en général, c'est ce qui est regroupé sous le nom Musique Actuelle.
D'accord. Le morceau qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que c'était?
C'était quatre instruments de cuivre, c'est l'ensemble, c'est des musiques de l'ensemble Musique Fabrique à Cologne en Allemagne.
C'est là, quand on parle de cuivre, donc il y a trompette, cor, trombone, c'est ça?
Oui, trombone
et
euphonium.
Qu'est-ce que c'est euphonium?
C'est une sorte de tuba, tout simplement.
Ah, donc, d'accord.
Ça ressemble au tuba, mais c'est différent, mais voilà, oui, ça ressemble.
D'accord, parce
c'est
que
plus, plus petit un peu. Et donc ça, c'est la section de cuivre d'un ensemble plus large. En fait, il y a aussi des cordes, ce sont une douzaine de musiciens, d'instruments variés, puis j'avais composé cette pièce-là seulement pour les cuivres. J'aime ça composer pour des formations instrumentales homogènes de cette façon-là. J'alterne souvent entre les cuivres ou les cordes, comme ça.
D'accord. Anne-Marie, une question pour vous.
Oui, ce que je me demandais, c'est quand j'ai lu, qu'est-ce que c'est de redessiner le positionnement de fret? Donc, si je comprends bien, c'est que la position sont changées sur un manche, contrairement
ça,
à ce qu'on connaît.
Guitares, oui. Les guitares créées. Mm-hmm.
Donc, à ce moment-là, c'est une nouvelle technique. À ce moment-là, donc, normalement, est-ce que vous allez... c'est une nouvelle façon d'apprendre des accords par rapport au positionnement de ces frettes?
Il y a plusieurs possibilités quand on commence à faire ça. C'est de plus en plus populaire. Les gens veulent un peu réinventer la guitare. Dans mon cas, justement, c'était... Bon, je me posais la question avec la page blanche au début. Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Quelles habitudes je veux conserver? Donc, en fait, j'ai conservé l'accord des cordes standard de la guitare. Donc, pour un guitariste, ses positions sont grosso modo aux mêmes endroits, mais pas exactement. Donc, le manche est beaucoup plus complexe que normalement, mais les notes sont quand même physiquement à peu près au même endroit. Donc, ça va juste jouer légèrement sur les hauteurs, puis on va avoir des sonorités différentes de la guitare, des harmonies surtout intéressantes.
Pourquoi vouloir développer une nouvelle technique? Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir développer cette technique?
Oui, ben en fait, ça fait partie de mon intérêt pour ce qu'on appelle l'harmonie naturelle. Donc, en fait, sans trop rentrer dans les technicités, c'est ça, c'est des hauteurs qui correspondent à des proportions simples. Hein. C'est étudié depuis Pythagore en Occident, c'est quelque chose de très ancien. Puis quand, toutes les cultures, c'est un phénomène psychoacoustique, physique, en fait, naturel, mais qu'on a adapté de façon dans toutes sortes de cultures pour créer des systèmes plus simples, des échelles à 12 notes, ou plus ou moins 12 notes, toutes sortes de possibilités. J'ai voulu revenir à cette essence, si on veut, là, de l'acoustique fondamentale, puis revenir à des proportions en me basant sur les proportions donc de vibration, de longueur de corde, tout ça. Donc ça fait varier les hauteurs un peu. Comme justement quand je travaille avec les cordes, les violons, tout ça, évidemment, c'est pas des instruments à fret, donc eux peuvent s'ajuster. C'est ce que je fais dans ma nouvelle création. Mais j'ai étudié un peu en guitare, même si je pas vraiment musicien, là, je suis plutôt vraiment compositeur, mais j'ai un attachement pour la guitare, mais je ne pouvais pas vraiment composer pour cet instrument-là avec le cadre fixé là, qu'il a dans le système conventionnel. Donc, ça me prend un petit travail de lutherie pour pouvoir poursuivre dans la démarche sur l'harmonie naturelle comme ça. Ouais.
Oui.
Intéressant.
J'ai regardé la vidéo où vous expliquez quand vous la faites, cette guitare, comment ça... J'ai eu un petit peu de mal à le comprendre,
ouais,
mais je ne suis pas musicienne.
J'essaie de vulgariser quand même, c'est ça, c'est des vidéos qui sont sur le site internet de ma compagnie, où j'essaie quand même d'expliquer...
c'est bien.
C'est sûr que c'est peut-être pas encore à la portée de tout le monde, là, même mon entourage, tout ça, mais j'ai quand même essayé de vulgariser, parler un peu, c'est important pour moi quand même, d'essayer d'expliquer aux gens ce que je fais, puis tout, mais c'est sûr que, bon...
Je suis arrivée quand même à vous suivre, mais voilà, je
dis... Si j'arrive au moins à piquer votre curiosité, c'est quand même une mission accomplie.
Est-ce qu'il y aura...
C'est juste un début, là. C'est sûr, j'ai la guitare là, est rangée chez moi pour l'instant parce que je pars avec un nouveau projet, mais c'est pas terminé. Là. Tu sais, l'instrument, je veux que les gens puissent l'utiliser. Je veux possiblement faire d'autres aussi. Donc, c'est n'est que le début de ce projet-là. Puis, je suis content parce que la guitare, c'est sûr que c'est l'instrument le plus populaire au monde. Ça rejoint beaucoup de gens. Je vois beaucoup de gens de mon entourage qui, là, pour la première fois, me font des commentaires, tout ça, puis me posent des questions. Puis là, je suis comme, bon, ben, tant mieux si... ça permet aussi d'intéresser des gens
des questions.
À un autre type de musique puis à ce que je fais en général. Ouais.
Est-ce qu'il y aura une école qui va faire la formation pour justement cette nouvelle technique?
Ben, c'est ça qu'il faut développer. Là. D'après moi, il va y avoir des intérêts possibles, mais j'ai pas encore eu le temps de démarcher auprès de gens ou d'institutions. Mais ce sera la prochaine étape. Là. À partir de l'automne prochain, là, je vais essayer de planifier ça, puis approcher des gens, puis voir comment on peut faire pour que cette guitare-là puisse être soit louée par des individus ou prêtée, utilisée pour faire de la composition, l'interprétation. Puis en fait, comme je disais, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire. Il y a des gens qui utilisent ça, entre autres, il y a un guitariste turc qui utilise ça justement pour pouvoir jouer les musiques traditionnelles d'Orient aussi. Donc en fait, ça peut servir à toutes sortes d'applications. Ça peut vraiment intéresser beaucoup de monde finalement.
Ben on vous, après la pause, puisqu'on va écouter un autre morceau, on sera certainement très intéressés l'une comme l'autre à savoir... comment vous en êtes arrivé là, et en parlant de projection libérante et du titre d'ailleurs, et comment ça s'est créé. Voilà, mm-hmm. Mais pour l'instant, donc on va écouter le deuxième morceau qui est un morceau d'instrument à cordes, si je ne m'abuse. Mm-hmm. Alors on l'écoute. Avec, on est toujours avec Simon Martin. Donc Simon, avec ce morceau-là, on a plus l'impression, en tout cas, c'est ce que je disais à Orden, de rentrer dans une église.
Mm-hmm. Oui, oui. C'est ce que je dis parfois de ma musique, c'est ça, c'est comme un espace de recueillement. C'est ça. Je trouve que c'est nécessairement l'intention musicale. Moi, je suis un peu absorbé par le travail sur l'harmonie, sur la résonance, tout ça. Mais après, oui, c'est vrai que ça dégage comme impression souvent de la musique, c'est ça, c'est assez solennel, c'est contemplatif, méditatif, introspectif, c'est un peu tout ça, donc oui.
Ça s'entend dans celui-ci. Alors, parlons de projection libérante. Vous dites que c'est exclusivement dédié à la création sans musicien attitré ni programmation saisonnière.
Oui.
On voudrait une petite explication de ça.
Une petite explication. Ben, en fait, c'est que souvent en musique de concert, ça relève surtout de sociétés de concert, mais en fait, ce qu'on voit plus souvent même, c'est des ensembles. C'est ceux qu'on connaît évidemment les grands ensembles comme l'Orchestre symphonique de Montréal ou l'Orchestre métropolitain, mais c'est la même chose aussi après pour les ensembles qui sont plus petits ou quoi que ce soit Molinari, quoi que ce soit Bodini, bref, il y en a plusieurs comme ça. Donc, c'est des ensembles constitués comme ça, c'est un peu eux qui collaborent avec les compositeurs, puis font des concerts, sont les organisateurs de concerts, en fait. Et donc, moi, comme compositeur, j'ai décidé comme ça de créer comme une compagnie simplement de production.
D'accord.
Chaque projet, je redémarre à zéro en quelque sorte et je choisis les musiciens selon les besoins que j'ai. Puis je compose un concert en entier. Donc, c'est pas un concert où il y a des pièces de différents compositeurs, donc parfois des créations, du répertoire, tout ça, et puis ça peut être une sorte de choses. Tandis que moi, c'est une création comme un spectacle de théâtre ou de danse. On s'assoit, puis du début à la fin, là, on vit comme une expérience artistique, une œuvre qui nous est présentée comme ça.
Je comprends. Est-ce que je peux vous demander comment vous êtes venu à la musique et à cette musique en particulier?
Ouais, de fil en aiguille, hein, c'est pas très extraordinaire comme histoire.
Vous avez commencé par quoi?
Par la guitare, c'est, comme je disais, c'est un peu comme tout le monde aime la musique, puis moi, ben, il y avait une guitare, en fait, c'est même pas moi qui ai eu l'idée, c'est mon père qui en avait une, après ma sœur. Donc j'ai commencé à en jouer, puis ma soeur avait abandonné, puis moi j'étais de plus en plus passionné, puis je suivais des cours, puis jusqu'à décider, je savais pas trop ce que je voulais faire, en fait, donc j'ai décidé d'aller étudier en musique comme ça. C'était pas non plus une vocation, mais c'était comme la seule chose que j'aimais, puis il m'a fait poursuivre l'école, puis c'est par le milieu académique, de fil en aiguille jusqu'à l'université, tout ça, j'ai éventuellement bifurqué l'instrument vers la composition, au contact d'un professeur en composition à l'Université Laval à Québec. Donc, c'est ça, les choses cheminées comme ça. Donc, c'est un milieu que j'ai appris à connaître son existence, à connaître toute cette musique-là au fil de mes études. Puis ensuite, en arrivant à Montréal, vraiment, les expériences en concert, découvrir exactement c'est quoi. Donc, ça a été vraiment par étapes, en fait. Puis, c'est ça, c'est pas quelque chose qui m'est tombé du ciel ou que je considère même encore aujourd'hui
qui
est ma vocation, mais ça l'est devenu au fil du temps, disons. Ouais.
C'est parce que quand vous l'expliquez, on dirait presque que c'est arrivé sans vous en rendre compte, sauf qu'après, il y a un sacré travail derrière pour arriver là où vous en êtes. Et il a fallu une passion, quelque chose qui a été un déclencheur pour partir dans ce sens-là. C'est ça que je voulais dire.
Quels sont vos... quels artistes vous inspirent?
Grande question. C'est une bonne question. Ça fait longtemps que je suis un peu plus absorbé dans mon propre travail plus que jamais, je dirais. Donc, je suis pas... je suis même pas un si grand consommateur...
de musique. D'art,
comme je l'ai déjà été, ouais, de musique ou d'autres choses. Ouais, je suis,
mais au début, qu'est-ce qui vous a un peu mis dans le chemin vers la musique qui vous a justement peut-être inspiré au point de vouloir faire ce que vous faites maintenant?
Ouais, ben, des musiques rock, mais un peu expérimentales, comme Pink Floyd, des choses comme ça.
La grande musique, ça.
Ouais. C'est ça. Et c'est sûr que dès que j'étais à la guitare, ce que je préférais faire, au début, ce que je voulais, c'est jouer justement des solos de guitare, comme Pink Floyd ou d'autres. Puis, ce que j'aimais faire beaucoup, c'est créer mes propres œuvres. Déjà, c'était pas nécessairement non plus de l'improvisation, style jazz ou autre, mais ça, je jouais pas de chansons, je savais rien jouer. Des fois, mes amis me demandaient de jouer de la guitare, puis je savais pas quoi leur jouer, puisque je ne savais que jouer mes propres compositions déjà.
Ah, d'accord.
Donc, c'est pour ça que je me suis rendu compte que ma vraie passion, en fait, et à un moment donné, à l'instrument, je me sentais limité. Je sentais que je retombais toujours dans les mêmes procédés. Donc, j'étais pas un vrai instrumentiste. En fait, j'étais absorbé par... fasciné par ça. J'étais curieux, en fait. Donc, je me demande toujours qu'est-ce que ça ferait si on plaçait tel accord avec tel accord ou changeait telle note par telle note. Puis c'est ça qui fait que là je contemple l'infini. Là, j'ai comme un infini devant moi. Puis je suis... là, je vois pas de limite à ce que je peux découvrir, en fait.
Ça, c'est fascinant, par contre.
Oui, il est bien dans ça. C'est bien.
Et quand on va vous écouter, par exemple, il y a certainement dans le public des personnes qui connaissent ou qui aiment comme vous ce genre de musique ou qui sont avides d'en savoir un petit peu plus. Et puis, il doit y avoir aussi des néophytes, des gens qui arrivent et puis qui écoutent sans rien connaître. Qu'est-ce que vous avez comme réflexion autour de cette musique pour vous, des fois? Si ça vous arrive, si les gens viennent vous en parler ou dire « Dieu tiens, ça m'a surpris, ça m'a plu, ça m'a emmené ici, etc. » Vous avez ce genre de réflexion des fois?
Oui, un peu. Ben, après, c'est sûr, de mon entourage aussi, ma famille, mes amis, c'est un peu... C'est des gens qui ne sont pas en musique non plus du tout. Donc, oui. C'est vraiment... C'est un peu le pouls des gens qui ne sont pas formés à ça. Ben, c'est très varié. Moi, ça, j'ai une tante qui aime m'écouter. Elle m'a demandé un enregistrement de ma pièce parce qu'elle trouvait que ça l'aidait à méditer. Je suis surpris parce que des fois, je me dis, bon, les gens vont peut-être trouver ça trop long, s'impatienter. Puis, surtout l'expérience en concert, en fait, qui marque les gens. Là, les gens, étonnamment, ce que je reçois comme commentaire, c'est que ça a passé vraiment très rapidement. Ils ont été comme absorbés dans la pièce au bout d'un moment. Après deux minutes, ils sont comme curieux un peu. Puis à un moment donné, pouf, ils oublient presque son concert. Ils sont comme transportés vraiment ailleurs. Donc, c'est des choses qui reviennent. Ben, en tout cas, je sens que les gens reçoivent bien la musique. T'sais, c'est pas juste un gros point d'interrogation dans le visage. Là, c'est... Donc, oui. Ils l'ont vécu à leur manière, puis l'apprécient de façon générale aussi. Donc,
c'est ouais. Ça, c'est entre votre façon de la travailler, de la créer, et la façon dont c'est reçu. C'était ça, je vous demandais si vous aviez eu des belles surprises des fois, des personnes. Donc vous allez donc passer au Festival international de musique actuelle de Victoriaville. C'est le dimanche 22 mai. Après, vous faites une tournée. Il me semble que vous allez aux États-Unis, c'est ça? Je vous dis une bêtise ou...
Non, c'est vrai. En fait, justement, c'est une pièce que j'avais créée avec le Quatuor Bodny, qui est un quatuor ici à Montréal.
Oui.
J'avais acheté une contrebasse comme ça. C'est une pièce que j'avais créée en 2015 avec eux. Puis, en fait, c'est eux qui sont invités au festival à New York. Puis pour rejouer cette pièce-là. Donc, c'est eux qui s'en chargent cette fois-ci, mais c'est ma pièce. C'est une création, ça va être la création aux États-Unis de cette pièce-là. Donc, je vais en profiter pour aller à New York, c'est sûr, évidemment.
Ben oui.
Tout à fait, oui.
Ça vaut la peine maintenant qu'on peut ressortir et se remontrer sur des scènes. C'est aussi. Donc, vous êtes le premier compositeur québécois à vous intéresser à cette musique-là, à le mettre en musique, oui, c'est ça. Et puis, vous avez d'autres projets de création?
C'est ça. En fait, comme une compagnie de création de danse, par exemple, j'ai un cycle qui est assez lent, donc sur un an ou deux, parce que là, je vais retomber en création. Je sais pas exactement encore ça va être quoi la nature du projet. Là, on va justement terminer celui-ci bientôt, puis réorganiser les choses. Mais probablement bientôt, peut-être en 2023, déjà une autre création avec probablement aussi des musiciens québécois que cette fois-ci... J'aimerais ça pouvoir collaborer souvent avec les mêmes musiciens maintenant. Peut-être quelque chose au fil des années.
Ça change.
C'est vraiment une spécialité, là, tu sais, trouver des interprètes qui sont familiers avec mon langage, tu vois, pour voir jusqu'où on peut aller, justement.
J'ai vu qu'il y avait été lauréat de plusieurs prix. Bravo.
Oui, bravo pour ça.
Merci.
On est à la fin de cette entrevue, donc merci beaucoup. Donc, on le répète, le dimanche 22 mai, oui, c'est ça.
Oui.
13h à l'église Saint-Christophe d'Arthabasca. Ouais. Voilà, je le dis comme il faut. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en tout cas.
Oui, merci.
Au revoir.
Merci de l'invitation. Au revoir.
Je suis pour le communisme. Je suis pour le socialisme. Et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent. Qui revendique et qui proteste. Moi je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste. Je retourne ma veste. Toujours du bon côté. Je n'ai pas peur
des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Et y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions. Je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais, je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste. De retourner ma veste, toujours du bon côté. Le crack de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon.
Et voilà, on vient d'entendre sur une chanson de Jacques Dutronc, avec la chanson de Jacques Dutronc, l'opportuniste, qu'il chantait avec son fils Thomas Dutronc. Restez avec nous, dans un instant, on part avec Anne-Marie Meunier, on va parler jardinage, on va parler culture bio, enfin bref, on va parler bon et beau. Alors, à tout de suite.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit, c'est certain, j'en prendrai bien soin, j'en prendrai bien soin pour qu'il soit aussi beau que toi. Attendre avec moi que les oiseaux reviennent. Si tu peux souffrir ces semaines de silence et de froid, j'ai déjà dessiné pour toi un jardin au fond de la cour à l'image de notre amour. Tu y crois. Cet été, je ferai un jardin. si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit. C'est certain, j'en prendrai bien soin, j'en prendrai bien soin pour qu'il soit aussi beau que toi. Nous regarderons pousser les fleurs, les légumes et les fruits, avec la foi des tout-petits. Le soleil de 5 heures fera renaître nos ardeurs. Tu te souviens de nos étés? Si tu voulais encore rester jusqu'aux chaleurs, cet été je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit. C'est certain. Si beau que toi, cet été je ferai un jardin. Cet été je ferai un jardin.
Et voilà, on vient d'écouter Clémence Desrochers qui nous chantait « Je ferai un jardin » et Anne-Marie Meunier est là pour nous apprendre comment faire un jardin. C'est à toi, Anne-Marie.
Oui, alors j'ai fait quelques recherches. D'abord, le mot « bio », hein, souvent, on achète bio, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Il y a quelques petits trucs...
Je pense qu'on aura peut-être besoin de tes explications là-dessus.
Oui, c'est ça. Alors, ben, d'abord, j'ai été chercher l'information sur québecbio.com. À différents autres sites que je vais citer. D'abord, le fondement des normes biologiques. On dit que les normes biologiques sont fondées sur la protection de l'environnement et ont été regroupées dans un cahier des normes qui est devenu l'outil de référence pour la certification biologique des produits. Les normes ont été établies sur la base de 4 grandes principes, oui. Dont le principe de santé, donc qui indique que l'agriculture biologique doit soutenir et améliorer la santé des sols, des plantes, des animaux, des hommes et de la planète.
Alors ça veut dire qu'on met pas de produits qui tuent les petites bêtes dont on a besoin, ouais, pour faire une bonne terre, enfin tout ça, qu'on met pas des produits chimiques et tout, etc.
Ensuite, le principe d'écologie, donc qui indique que l'agriculture biologique doit être basée sur le respect, le maintien des cycles et des systèmes écologiques vivants.
Oui.
Ensuite, le principe d'équité qui indique que l'agriculture biologique doit se développer sur des relations qui assurent l'équité par rapport à un environnement commun. Et pour terminer, le quatrième principe, on dit le principe de précaution qui indique que l'agriculture biologique doit être pratiquée de manière prudente et responsable afin de protéger la santé et le bien-être des générations actuelles et futures,
ah oui,
au pluriel.
Oui.
Alors,
un grand moment, ça faut y penser.
Oui. C'est sûr que de plus en plus, on entend parler, tu sais, des pesticides et tout. Il y a le BTI, c'est très complexe.
Non seulement on en entend parler, mais c'est que il y a beaucoup de terre qui est abîmée à cause de ça, qui devient presque stérile, enfin.
Exact. Et puis on consomme des produits, tout ça.
Donc, qui viennent de là, malheureusement.
Ouais. Ce que j'ai surtout aimé, c'est que, ben d'abord, c'est pas n'importe qui peut devenir nécessairement dire « Ah, moi, je fais des produits bio. » Donc, on dit la certification biologique, je trouve ça important, a garanti que tout produit vendu au Québec portant la mention « biologique » a été produit conformément aux normes de l'agriculture biologique du Québec. Ces normes sont régies par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, qu'on dit CARTV. Ensuite, qui est chargé d'octroyer la certification biologique? Donc, c'est pas n'importe qui non plus. Donc, on dit qu'au Québec, l'appellation biologique fait partie des appellations réservées et gérées par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, donc le CARTV, comme je vous disais. Et c'est accrédité, il y a 6 organismes certificateurs qui sont chargés d'attribuer ces certifications, dont il y a Écocert Canada, Québec Vrai, Procert, qui est international, c'est ça, Letis SA et TCO Serre. Donc, il y a plusieurs endroits. Et puis, il y a des sauts aussi quand on voit. Donc, on peut pas, tu sais, c'est pas n'importe qui peut arriver et dire, bon, ben moi, je...
Oui, moi, je fais un truc bio et tout. Ouais. On peut pas le faire comme ça, là, parce qu'on en a pris l'idée, puis on se lève un matin avec... Oui. La volonté de faire ça, d'accord.
C'est ça. Puis s'il y a des produits aussi qui sont moindrement modifiés, par exemple, ben oui. Si, par exemple, de, je sais pas moi, n'importe quoi, ils doivent s'assurer, c'est pas n'importe qui non plus. Donc, on peut, que ce soit des bananes ou des carottes, peu importe, mais s'il y a des...
Est-ce qu'on peut faire pousser ici aussi, parce que...
Oui, oui.
C'est pas toujours évident, et puis... Je trouve aussi que il faut changer un peu la mentalité des gens pour accepter, parce qu'il y en a beaucoup qui, avec l'habitude d'acheter des légumes qu'on dit parfaits dans la forme, n'acceptent pas de manger des produits qui ne sont pas parfaitement ronds, parfaitement longs, parfaitement si, oui. Alors que le légume qui sort de terre, il est comme il est et ça ne l'empêche pas d'être excellent.
C'est ça, exactement. Mais j'ai voulu porter une attention aussi parce qu'on vit de plus en plus des difficultés en rapport avec, le panier d'épicerie va augmenter d'environ 7 %. Je lisais dans la presse canadienne, justement, date de vendredi, il y avait mention en rapport avec la hausse, on le sait, la hausse des carburants. Donc, ça va toucher le diesel, l'essence fait partie du carburant. Donc, automatiquement, les producteurs vont assumer un coût. En rapport avec la hausse.
Oui.
Ensuite, il y a le transport qui va s'appliquer. Donc, aussi, donc, ça veut dire que, veut pas, on va être touché assez durement.
Et assez rapidement.
Assez rapidement. Déjà, ça a passé les 2,15 $ en rapport là, avec la région de Montréal. Ce qui est intéressant maintenant, c'est, bon, OK, bio, on n'est pas obligé d'avoir un grand jardin. Il y a des municipalités partout à travers, que ce soit au Québec ou au Canada ou ailleurs, qui ont des jardins communautaires et tout, mais même si on n'a pas la chance d'avoir ça, il y a la possibilité de faire pousser un jardin vertical. Donc, c'est
oui,
là-dessus...
sur sa terrasse ou oui. Sur son balcon.
On peut aller, par exemple...
Sur les toits
oui,
aussi.
Exact. On peut aller sur Facebook, pas Facebook, mais Google. J'ai fait plusieurs recherches sur différents moteurs. Il y a des idées comment faire pousser. Ça peut être dans des pochettes, ça peut être... il y en a que c'est des espèces de... des anciennes plateformes de bois, vous savez, des palettes en bois de livraison et tout. Il y a différentes choses qui peuvent être utilisées, puis en même temps, ça contribue pour le recyclage. Hein.
Oui. Tout ce qui peut faire, tout ce qui peut aider dans ce sens-là, et dans le recyclage, et dans le fait d'avoir des ouais. légumes pour soi, c'est pas plus mal. On n'est pas obligé de courir, d'essayer d'acheter une maison ou de dire je peux pas, donc je peux pas le faire. Il y a des...
Ouais. Et pour des petits trucs d'insecticides naturels, parce qu'on veut pas utiliser justement les pesticides qui sont néfastes
non,
pour la santé,
la
cancérigènes, j'ai trouvé des petits trucs, par exemple celui-ci, vaporisateur à l'huile.
Oui.
Alors, vaporisateur à l'huile, c'est mélanger une tasse d'huile végétale avec une cuillère à soupe de savon. On dit couvrir et mélanger.
Du savon de Marseille, ou, du savon,
savon
basique?
À vaisselle, par exemple. Couvrir et mélanger énergiquement. Et on dit qu'avant de l'appliquer sur vos plantes malades, parce que, bon, des fois, il y a des petits pucerons et tout ça, on dit ajouter 2 cuillères à café de votre préparation dans 250 ml d'eau. Ensuite, vous pouvez vaporiser. Le produit va enrober le corps des insectes et les suffoquer. Donc, c'est mieux que de prendre des produits
des pesticides,
chimiques.
Oui.
Un autre aussi, c'est le vaporisateur au savon. Cette préparation, on dit qu'elle est similaire à la précédente. Elle sera efficace contre les mites, les pucerons, les mouches blanches, les coléoptères et d'autres des insectes qui sont enfamés. Donc, on doit mélanger 1,5 cuillère de savon liquide doux dans 250 ml d'eau et on dit bien secouer puis appliquer sur la surface des feuilles infestées. Et on dit qu'il est recommandé de ne pas faire ça en plein soleil, mais plutôt soit le matin de bonne heure ou le soir. Oui.
Comme quand on les arrose.
Oui.
En même temps, il faut aussi se renseigner parce qu'il y a des, euh, y Il y a des insectes qui sont nuisibles pour des plantes et d'autres qui sont bons pour elles,
oui,
parce qu'ils l'aident à...
Exactement.
À grandir, enfin, être...
Dans la prochaine partie, je pourrais vous dire, il y a certains trucs des, qui vont justement, qui sont bons à planter dans un jardin, qui éloignent justement certains petits insectes plutôt que d'utiliser la méthode que je viens de vous expliquer.
Oui, parce que c'est tellement difficile dans les, dans les, dans les jardins d'avoir, d'avoir quelque chose de bon et propre, parce que des fois, on ne se rend pas compte... quand c'est dans le jardin, quand on plante, si la terre est pleine de pesticides, c'est ce qu'on se met dans l'estomac.
Exactement, on consomme. Alors, on peut même planter des œillets, on appelle ça des œillets d'Inde, près des tomates. Tu sais, souvent, les tomates, on a des petits pucerons, des problèmes. C'est une petite
les
fleur
jaune.
Les
œillets d'Inde, je connais, oui.
Oui, c'est ça.
Joli.
Donc, oui, on dit que si vous craignez l'invasion d'insectes ravageurs sur les légumes de votre potager, notamment sur vos tomates, ne vous précipitez pas sur les insecticides. Donc, il existe en effet une manière bien naturelle puis plus jolie de faire fuir les parasites, c'est l'œillet d'Inde.
Ben, c'est joli. Ben, c'est là-dessus que nous allons partir en musique avec Lille qui nous chante Vanille.
Qui pensait plus pouvoir aimer, jamais j'aurais pensé. Je leur ai tous dit que j'avais besoin de personne. Mais j'ai menti, je sais, ça ferait pleurer Simone. Tu me fais l'effet d'une pluie chaude en juillet, c'est fou. À chaque rendez-vous, une glace à la vanille, mais tu fonces au bébé comme une glace à la vanille. De la vie, rêve de toi. De la vie, que de ça. Comment veux-tu que moi je résiste à tes avances? Tu t'approches chaque fois en laissant assez d'espace. T'as jamais peur de dire ce que tu penses et t'entends ce que je dis dans mes silences. Tu me fais l'effet d'une pluie chaude en juillet.
Voilà, donc on revient avec Anne-Marie Meunier. Anne-Marie, tout à l'heure, on a parlé des plantations, des tomates, des choses comme ça qu'on pouvait faire sur notre comment dirais-je, notre balcon, éventuellement pour ceux qui n'ont pas de jardin. Mais il y a des insectes qui sont nuisibles pour certaines plantes. Et comment on fait pour s'en débarrasser gentiment en leur disant « Allez voir ailleurs, s'il vous plaît
». Oui, tu as bien raison. Alors, quels sont les insectes nuisibles au jardin? On dit qu'en été, on redoute évidemment les moustiques et leurs piqûres qui nous démangent sans cesse.
J'en ai une, j'ai attrapé un premier moustique.
Oui. Alors, on peut compter sur la citronnelle, la menthe poivrée et le géranium odorant pour s'en débarrasser naturellement.
Eh oui, le géranium.
Naturellement. Ensuite, ben, on constate une augmentation de mouches volantes due notamment à la météo pluvieuse. Cet été, donc, pucerons, fourmis ou encore araignées peuvent affaiblir les plantes ainsi que nuire à leur bon développement. Souvent, quand il y a de la pluie, quand on laisse des fois des choses dans la cour arrière, des fois, ça peut être un bocal, un truc. Dès qu'il y a de l'eau stagnante, hein, ça l'attire. Ah oui. Les moustiques, les petits maringouins, on a toujours peur ou le Zika ou le virus du Nil. Donc, on doit tourner à l'envers, vider du moins ces contenants d'eau pour éviter que ces petits moustiques-là continuent. Arrive. De venir élire domicile près de la maison.
Ça me tente, le géranium, en plus, ça sent drôlement bon.
Oui, oui. Il y a des plantes anti-insectes, donc des odeurs fortes et repoussantes, qu'on dit. Donc, miser sur des plantes qui vont dégager une odeur telle qu'elles repoussent radicalement les nuisibles du jardin puis de la maison. Donc, bien souvent, les parfums citronnés ne sont pas appréciés des moustiques à ce moment-là. Et j'ai lu aussi... si on revient sur le fait utiliser des méthodes naturelles plutôt que de l'insecticide.
Oui, parce que ça va plus loin que ça, l'insecticide, ça abîme plein de choses, et nous, par la même occasion.
Oui, donc la citronnelle, il y a 9 plantes ici anti-insectes à avoir absolument au jardin.
Alors, notez. Stylo, papier et notez.
Oui, t'as raison. Donc, la citronnelle, parmi les plantes odorantes qui repoussent les insectes, on retrouve sans surprise la citronnelle. Donc, on dit hacher quelques feuilles et placez-les dans une coupelle à des endroits stratégiques de la maison pour être débarrassé des insectes nuisibles. Donc, dans les 9, donc le deuxième, ben, les œillets d'Inde que je vous ai dit tout à l'heure, revient. Donc, des mouches qui volent sans cesse dans le jardin ou à la maison. Donc, cultiver des œillets d'Inde, on dit qu'en plus de fleurir l'extérieur, ben, ça demande très peu d'entretien. Donc, en effet, l'arrosage se fait uniquement en cas de chaleur intense. Et pour stimuler une nouvelle floraison, ben, on dit penser simplement qu'à retirer les fleurs fanées au fur et à mesure. En troisième position, on a l'absinthe. Donc, c'est une vivace buissonnante qui offre une belle floraison en été.
C'est quoi l'absinthe? On pense jamais à une plante, on pense à l'alcool. En tout cas, il y a tellement d'artistes dans le temps qui buvaient de l'absinthe quand on a employé le mot absinthe et qui se sont abîmés avec ça très fort. Donc, je ne le pensais pas en plante.
Oui, absolument.
Ça ressemble à quoi, l'absinthe? Bien,
j'ai pas la photo, malheureusement, mais on peut certainement facilement aller chez Google. On va cliquer « Images », on tape l'absinthe et toute la panoplie d'images.
Ce que c'est. Oui. Okay.
En plus de sublimer et de parfumer le jardin, on dit qu'elle repousse les pucerons lorsqu'elle est plantée au pied des plantes telles que des rosiers, par exemple.
Ah, cool!
Ensuite, en quatrième position, on a le basilic citron. Donc, le basilic, c'est la plante anti-insectes par excellence. Oui. Ses différentes variétés vont lui donner de nombreux avantages. Par exemple, le basilic citron va repousser lui aussi des moustiques grâce à son odeur répulsive. Fait que si je réalise de plus en plus que les odeurs vont repousser justement tout ce qu'il y a des odeurs.
Odeurs qui ne nous repoussent pas, nous, mais qui nous évitent d'être piqués, ce qui est pas mal quand même.
Exact. C'est beaucoup mieux que des insecticides. En cinquième position, on a la lavande, la fameuse lavande.
Ah ben oui, c'est vrai.
Donc, planter la lavande pour que les guêpes puissent être attirées par ses fleurs violettes et pollinisatrices plutôt que par votre assiette. Donc, pensez à placer la lavande dans un sol bien drainé à un endroit ensoleillé.
Ah oui.
C'est beau, la lavande aussi.
Ah oui, c'est magnifique. Oui.
Celle-ci, en sixième position, la tanaisie, je ne la connais pas, par exemple. Alors, on dit qu'on oublie souvent les propriétés insectifuges de la tanaisie. Pourtant, elle va repousser efficacement les fourmis qui souhaiteraient envahir le jardin. Souvent, on est pogné avec des nids de fourmis, c'est pas évident.
C'est vrai, mais j'ai jamais entendu parler de cette plante. Donc, je vais faire ma recherche pour voir à quoi ça ressemble.
Tanaisie. Oui, tanaisie, je vous remettrai le fruit de mes recherches.
Oui, d'accord. Il n'y a pas de souci.
Tu pourras en prendre connaissance puis aller faire
m'occuper de mon jardin.
J'ai mis tous les liens aussi, si tu peux aller revoir pour
Quel
aller plus
loin. Quel bon travail, Anne-Marie.
Et puis en bouquet, on dit que la tanaisie en bouquet à l'intérieur ou en pleine terre, vous pouvez la cultiver, mais gare à ceux qui ont des animaux de compagnie. Donc, il faut faire attention si vous avez des animaux de compagnie. Ça peut être une plante qui est toxique pour les animaux.
Ah, d'accord.
En septième position, le fameux géranium odorant. Donc, privilégier les plantes aux odeurs intenses, parfois piquantes et citronnées. Donc, ça fait fuir les moustiques, encore une fois. Par exemple, le géranium odorant, vous êtes sûr de ne pas être piqué par ces petits insectes. Et on arrive presque à la fin. La huitième position, c'est les feuilles de tomates. Hein, aussi drôle.
Ah oui, les feuilles de tomates.
Oui. Lorsque vous les récoltez, vos tomates, on dit de ne pas jeter les feuilles des plants. Servez-vous-en pour faire fuir, par exemple, les araignées ou les guêpes. Alors, vous devez les hacher et vous les disposer dans une coupelle pour avoir la paix dans votre intérieur.
C'est fou, comme quoi la tomate, hein? Vous gardez le fruit pour le manger et...
Oui.
OK. Et après?
Et on termine avec la menthe poivrée.
Oui.
Donc, la menthe poivrée a la particularité de repousser divers insectes qui peuvent nous permettre la vie dure. Donc, moustiques, mouches, fourmis, même les araignées n'auront plus leur place au jardin si vous les cultivez. Cette magnifique plante
odorante. Moi, ça me va très bien parce que avoir des bonnes odeurs chez soi, être débarrasser des insectes tout en leur laissant faire leur boulot et en n'étant pas, en les assassinant pas, ça me va très bien.
Oui.
Tout à fait, voilà. Voilà comment j'aime avoir un jardin.
Oui.
Je n'en ai pas, mais comment je ferai un jardin ou mes plantations sur une terrasse, si jamais, voilà.
Oui.
Eh ben, c'est super.
Oui, et si les gens cherchent des idées originales, peut-être de faire un jardin vertical, j'ai vu, vous allez sur Google, je vous dis, les images, c'est super trippant. Il y a des plantes tomates qui peuvent être plantées à même une espèce de litre de plastique, là, de bouteille. On recycle en même temps. Et puis, en tout cas, allez voir ça. Il y a super, des trucs super intéressants pour les
jardins. Faites des choses naturelles. Moi aussi, faisons des choses naturelles et chacun met la main à la pâte pour protéger cette terre et pour mieux nous protéger nous parce que du coup on s'alimente mieux, ce qui n'est pas mal du tout. Merci beaucoup Anne-Marie, merci pour tous tes conseils en tout cas. Donc on va partir en musique de façon dansante, le soleil est à une, enfin peut-être pas aujourd'hui mais en fait en général l'été est là. La compagnie créole qui nous chante Ça fait rire les oiseaux.
Ça chasse les nuages et fait rire.
Est-ce que vous avez dansé? Est-ce que vous avez ri comme les oiseaux? Ou est-ce que ça vous a donné envie de bouger? Nous, oui, hein, ça nous a donné envie de bouger. Mais on est quand même resté sur le siège. On ne s'est pas levé. Peut-être la prochaine fois. Donc, voici, nous sommes à la fin de cette émission. Donc, on remercie Simon Martin qui a été avec nous, compositeur, et qui nous a parlé d'une musique que peut-être, enfin, moi personnellement, j'aurais pas connue si on n'avait pas eu l'opportunité d'en discuter avec lui. Toi, tu avais plus de connaissances, Anne-Marie, en musique, donc c'était bien.
Merci.
Ça a complété mon entrevue là-dessus. Merci Anne-Marie Meunier d'avoir été avec nous, d'avoir été ma chroniqueuse du jour.
C'est moi qui te remercie.
C'était bien d'entendre un peu parler du jardin, de ce qu'on peut faire, parce qu'il n'y a aucune impossibilité. On ne peut pas dire « Ah ben, j'ai pas de maison, j'ai pas de jardin, je ne peux pas faire ça ». Si, on peut toujours faire. On peut toujours faire, même sur un balcon, même... juste à l'extérieur d'une fenêtre, il y a des choses. On peut faire des herbes aromatiques pour nos oui. salades, pour nos tartes, pour tout ça. Donc, c'est tout bon. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Nicolas Wartmann pour la technique et les chansons. Et merci surtout à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Excellente soirée et à demain.